Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Alors, il y a Antoine Robitaille et Caroline Saint-Hilaire qui sont avec nous pour nous dire ce qui se passe dans le merveilleux monde de la politique. Bonjour à vous deux.
Et bonjour.
D'abord, du côté de la province, il y a les religieux qui sont fâchés ben noirs, c'est ça?
Oui, on va faire, cet après-midi, il va y avoir un bilan de l'opération Oscar là, avec Geneviève Guilbeault. Mais en attendant, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont vraiment fâchés. Et comme tu as dit, c'est les religieux, hein, ils ont comme une association, la table interreligieuse, qui s'exprime par le truchement de l'Assemblée des évêques catholiques. Et qui, là, disent la situation est décevante et inacceptable parce que les lieux de culte ont été ramenés à la même catégorie que les bars. Et on veut, et l'exigence est la suivante, là, on dit, je vais te citer le communiqué, « Par conséquent, nous exigeons des autorités gouvernementales qu'elles reclassifient dès aujourd'hui les lieux de culte dans la catégorie des salles de spectacle, des cinémas et des théâtres, ce qui permettrait de continuer à accueillir jusqu'à 250 personnes dans nos lieux de culte au lieu d'être limité à 25 ou 50.
On veut pas que ça soit un lieu de rencontre, on veut que ça soit un lieu de spectacle.
Oui, c'est ça, exactement.
OK.
Pas de vin de messe.
Mais du popcorn.
Pas de vin de messe. OK, là?
Oui, oui, c'est correct. Alors, ça a été quoi la réponse à ça? Il n'a pas eu?
Il n'y a pas de réponse encore. Ça vient de tomber, ce communiqué-là.
Oui, okay.
Je le trouve intéressant. Il est très long. On dit, par exemple, que dire que c'est des lieux qui s'apparentent à un endroit où on sert des boissons alcooliques, tout ça. Il dit à sa face même, cet amalgame est injustifié et faux. C'est ce qu'on dit dans le communiqué. On dit qu'il n'y a aucune éclosion jusqu'à maintenant qui a eu lieu dans un lieu de culte. C'est une bonne affirmation. C'est intéressant. Faudrait essayer de confirmer. Je sais qu'au début de la pandémie, on se posait beaucoup de questions sur les juifs hassidiques, hein, qui voulaient pas suivre les règles. Ensuite, puis c'est des gens même de Côte-Saint-Luc, je pense au maire, qui est beaucoup intervenu dans les communautés pour faire comprendre que c'était très important qu'il fallait finalement changer ces modes de pratiques religieuses pendant un
temps. Mais qu'est-ce que ça change de permettre aux églises d'avoir 250 personnes? Il y en a jamais 250 personnes pendant les messes, là?
Ben attends, c'est la table interreligieuse, c'est les autres religions, celles qui pratiquent beaucoup.
Ah, là, il y a du monde. Ouais. Ouais,
mais c'est vrai
qu'il n'y a plus grand monde.
C'est vrai que la baisse de la pratique religieuse a réglé le problème de la contamination dans l'Église catholique.
Mais c'est ça. Caroline, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on devrait...
Ben j'écoute, puis je suis un peu mitigée parce que... Est-ce qu'on fait référence aux funérailles, aux mariages, ou c'est juste les cérémonies, par exemple, du dimanche matin étant catholique, ou d'autres cérémonies? Je comprends leur inquiétude, leur demande, en fait. Je comprends aussi le gouvernement dire, on veut éviter d'avoir trop de rassemblements. Puis en même temps, j'en ajoute un peu aussi, je me dis, est-ce que ça peut pas faire du bien un peu aussi à certaines personnes qui ont besoin de se recueillir un peu? Je parle peut-être à des amis.
C'est intéressant que tu dises ça. C'est un des arguments qui est utilisé, Caroline, d'ailleurs, dans le communiqué. On dit, en ces temps troublés, des milliers de Québécoises et Québécois trouvent dans la pratique de leur religion un réconfort et une source de résilience qui bénéficie à l'ensemble de la population.
Tu fermes pas des gyms, là, je veux dire...
C'est un point très valable. Là, c'est effectivement.
Un peu sensible quand même ces temps-ci.
Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui va pas? Parle-nous.
Non. Tout va très bien. Non, mais je veux dire, je suis sensible à ce genre de demande-là dans le sens où, tu sais, on conjugue souvent l'économie, puis je comprends, je veux dire, on veut pas tout fermer parce qu'on veut pas perdre des emplois, on veut pas que ça ait des impacts sur le budget national. Mais en même temps, il y a aussi le bonheur personnel, individuel et collectif. Je pense que ça doit être considéré, franchement.
Il paraît que dans les provinces voisines, il y a vraiment... un lien là, constant et direct avec les autorités gouvernementales et les religions. Puis c'est pas le cas ici. Ici, on dit que carrément, on se fout des religieux. Je sais pas si c'est l'aspect laïque ou laïciste de notre gouvernement, mais ils écrivent qu'ils ont un esprit de collaboration, c'est-à-dire les religieux, ils disent on a un esprit de collaboration. Or, les lettres qui n'ont même pas reçu d'accusés de réception, les appels téléphoniques et les courriels laissés sans réponse ne se comptent plus.
Alors, ah oui. Non, mais effectivement, faut se mettre dans leurs souliers et se dire, est-ce que tous ceux qui ont des pratiques religieuses, c'est moins important que d'aller s'entraîner, faire de la gonflette? La question se pose. Moi, j'ai pas réponse à ça, en tout cas. Il y a Simon
Jolin.
C'est
le gym de l'âme.
Oui, c'est ça.
Oh.
Les luttes cultes sont un peu le gym de l'âme. Mmh. Pour certaines personnes, pas pour les laïcs comme toi, là. Les mécréants.
C'est moi, ça.
Mécréants pestiférés, en plus.
Lâchez pas, continuez. Mettez-en. Simon Jolin Barrette.
Ben, première, on s'attendait à des mesures pour protéger le français. Là, c'est l'ajout de budget. On explique qu'il y a un 5 millions de dollars supplémentaires qui vont être consacrés à l'OQLF. Déjà, c'était annoncé dans le dernier budget. On crée 50 nouveaux postes à l'Office québécois de la langue française. Mais c'est pas encore le fameux plan qui a été encore qualifié de costaud par Simon Jolin Barrette. Donc, annonce ce matin pour dire qu'on va beaucoup mettre l'accent sur la francisation dans les entreprises. Trois bureaux, il va y avoir des bureaux qui vont être créés. Il va y avoir des gens qui vont être embauchés. 20 personnes, donc une équipe de 20 personnes sera affectée à la francisation des entreprises. On attend le plan costaud. Ça devrait venir. Il paraît qu'il y a beaucoup de tiraillements au sein même du gouvernement.
Mais auprès de l'Office de la langue française, est-ce qu'ils vont encore attendre d'avoir une plainte avant de sortir des bureaux? Ou ils vont eux-mêmes aller enquêter, aller sur le terrain, voir...
Ils font des choses. Non, mais ils font de la sensibilisation. J'avais suivi, moi, une agente à un moment donné... À l'époque du Pastagate, ou en tout cas, une de ces polémiques-là, là, j'étais allé passer la journée et elle se promenait d'entreprise en entreprise pour sensibiliser à la francisation, même suivre les plans de francisation des entreprises. Non, il y avait vraiment travail solide qui se faisait en amont.
S'est-tu promené sur la rue Sainte-Catherine une seule fois?
Oui, c'est ça. Là. Moi,
c'est ça qui est drôle,
c'était une femme qui allait dans les entreprises.
Mmh. C'est ça qui est drôle, Antoine, parce que Simon Jolin Barrette annonce, je pense que c'est 100 personnes qui seront embauchées. On va ouvrir 3 bureaux, Laval, Longueuil, Drummondville.
Ouais.
Mais c'est intéressant, sauf que pour répondre un peu à ce que Benoît dit, il me semble que des agents supplémentaires devraient s'activer déjà à Montréal. Avant d'aller s'étendre jusqu'à Drummondville, l'enjeu problématique, selon moi, n'est pas à Drummondville.
C'est là qu'il y a Ben Labédène, à Drummondville, où ils font de la poutine?
Ben de la laine, non?
Ben, je ne sais pas. Ça va être la nouvelle offensive pour la langue française. Ça passe par Drummondville.
C'est comme un premier... On dirait que M. Jolin Barrette avait envie d'annoncer de quoi, là?
Ouais.
Et il trépigne. Bon. On sent qu'il trépigne.
Bon, mais tant mieux. Du moins que ça coûte pas trop cher pour se faire plaisir. Caroline, du côté d'Ottawa, oui. Erin O'Toole, qu'est-ce qui arrive?
Ben oui, ben en fait, c'est dans le devoir. J'ai trouvé ça plutôt cocasse et là, peut-être que ça va faire bondir Antoine, peut-être que non, je le sais pas, mais je me lance. Semble-t-il que les journalistes étaient fâchés, vexés que M. O'Toole les ait pas contactés personnellement suite à son diagnostic positif de la COVID-19 et pourtant, il a pas fait comme d'autres personnes, là. Il l'a dit assez rapidement, il a fait un communiqué, il a dit autant qu'il allait se faire dépister, il l'a dit rapidement aussi qu'il était positif. Il me semble là, que quand tu vas à une conférence de presse, tu le sais hein, où tu étais. Donc, je sais pas, moi, 1 + 1, ça fait 2. Mais certains journalistes auraient aimé être contactés personnellement, être avisés. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un peu intense. Là. T'sais, je peux comprendre qu'on reproche à certaines personnes de ne pas l'avoir dit rapidement, mais c'est pas du tout le cas de M. O'Toole. Là. Il n'y a rien caché. Il l'a dit, il l'a fait aux yeux et su de tout le monde. On a eu des avis, des convocation, des informations quotidiennes.
Mais est-ce que c'est la coutume, ça, de contacter personnellement les journalistes pour annoncer une nouvelle comme quoi M. O'Toole ou un chef de parti est en isolement?
Peut-être dans la capitale du Dominion.
Oui.
À Québec, ouais, on me semble qu'on n'a pas
là,
eu ça.
En plus, dans l'article du Devoir, Mme Buzetti rapporte que, bon, les journalistes ont été en contact avec M. O'Toole 16 minutes. Habituellement, c'est après 15 minutes que ça devient dangereux. Alors, la minute compte beaucoup pour Mme Buzetti. Je trouve qu'on a
est-ce qu'il était à 2 mètres?
Je sais pas tout, Antoine.
Il devait être à 2 mètres.
On va appeler Mme Buzetti. Vous êtes à 2 mètres, vous avez un masque, ouais. Je veux dire, à un moment donné. Là,
ouais.
De toute façon, Antoine, tu vas à une conférence de presse, puis la personne devant toi, elle t'annonce qu'elle est positive. Je veux dire, as-tu besoin que je t'appelle?
Tu recules d'un pas. Non, tu recules d'un pas. Hein? Tu dis, ma première réaction, waf! Pas trop tenter de lui serrer la main et de donner des
visites. T'enfiles ton faux col.
Oui, puis jusqu'à d'en face. Bon, il y a la présidente de l'Agence de la santé publique du Canada qui démissionne.
Ben oui, toi, écoute, Ottawa nous annonce qu'on est en plein deuxième vague au Canada, puis bon, la présidente quitte à peine après 18 mois quand même. On me chuchote dans les oreilles que bon, elle faisait pas l'affaire nécessairement. On sentait pas qu'elle livrait la marchandise, qu'elle avait pas écouté les scientifiques quand elle avait reçu certains avertissements au début de la pandémie, tout ça. Donc voilà, elle est partie rejoindre de sa famille, elle en a assez. Donc, Ottawa est à la recherche de quelqu'un. Et là, il y a beaucoup de pression pour que ce soit non pas une haute fonctionnaire, mais que ce soit une scientifique ou un scientifique.
Ben oui.
Donc, voilà.
Ce serait pratique, hein? pour la santé publique au lieu de dire n'importe quoi. bon. Alors ça, elle s'est faite démissionner, donc elle n'a pas démissionné.
Non, elle est partie elle-même, mais peut-être qu'effectivement,
elle
a eu de la pression, peut-être, oui, mais elle est partie d'elle-même, donc voilà, tout le monde l'a remerciée publiquement. Alors tout s'est fait correctement.
Bon, c'est l'essentiel. Et le discours du trône,
sais que ça vous emballe, messieurs, vous avez tellement hâte. Mm-hmm. C'est ça, c'est mercredi, on a encore 2 jours pour y parler. Pour y penser, puis on va en parler après ça 2 jours aussi. Mais moi, j'ai hâte de voir, en fait, je sais pas ce à quoi vous vous attendez dans ce discours-là.
Moi, je m'attends à une utilisation massive du mot « on va continuer ».
Ouais.
Continuer.
Et pour la classe moyenne.
Et on travaille sur ça. Puis on continue à travailler.
On continue
pas moyen d'avoir
à travailler.
Une conversation sérieuse. Je suis un peu déçue. mais... Donc, ce sera un discours du trône. Est-ce que ce sera sur la relance ou si ce sera un discours répondant à la deuxième vague? Alors, tous les paris sont permis.
D'après toi?
Moi, je pense que ça va être beaucoup deuxième vague. Je pense qu'on va nous faire peur.
De prévenir le pire.
Votez pour moi, maintenez-moi en poste parce que vous avez besoin de moi.
Ouais.
Je vais être là, je vais créer des programmes. Vous êtes mieux avec moi qu'avec les méchants séparatistes ou les méchants gars de droite.
Ils sont malades,
donc, restez avec moi.
Les séparatistes sont malades, ils sont sur le dos, ils sont sur le corps.
Ben oui, les conservateurs aussi. Donc, les deux chefs de l'opposition seront là virtuellement parlant. Seigneur, qu'est-ce que vous avez mangé?
Mais ça tombe-tu bien pour Justin?
Ça ressemble à un complot. Ça sent le complot à plein nez.
Ouais.
Faites vos recherches.
C'est Gérald Botts qui a propagé la COVID-19 aux autres parties.
Non, mais c'est l'épouse de M. Trudeau.
Ouais.
Qui, elle, l'a eu. Donc,
Puis l'épouse de M. Blanchet. Ah, tout est de la faute des épouses.
C'est toujours de la faute des épouses, encore. Ça prend un célibataire à la tête du Canada. C'est pas compliqué. Il va avoir la paix.
Mm-hmm. Ah, ben, il y a M. Kenney.
Jason
Kenney.
On ira pas là. OK, c'est assez pour aujourd'hui. Parce qu'on a fait le tour. Oui. parce que c'est correct. Caroline Saint-Hilaire, Antoine Robitaille, merci, un beau bonjour à Jason.
Je vous laisse.
À demain.
Salut.